Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale, à l'heure où la bulle sociale est au cœur de tous les débats. Nous, on va être honnête, on a décidé de faire dans la bulle festive. Alors soyez les bienvenus en Champagne ou à quelques jours de Noël, vous apprendrez pourquoi la bouteille de Crystal Roederer est la seule à manquer de culot. Cet homme a dit « Mes goûts sont simples, je me contente de ce qu'il y a de meilleur ». Il s'appelait Winston Churchill et nous vous expliquerons pourquoi la maison Paul Roger lui dédie une cuvée. Tout cela, chemin faisant, à travers les vignes champenoises. Alors entre pâté champenois, andouillette de Troyes et biscuits roses, laissez-moi vous présenter le duo qui chaque samedi parcourt la France à nos côtés. Un duo que je rebaptiserai spécialement pour l'occasion. Voici donc les Moët et Chandon d'RTL vous régale. Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour.
Ça va Jean-Michel?
Comment
bonjour
ça va les amis?
Très bien. Vous êtes très pétillant ce matin. Vous allez bien?
J'ai le sentiment que les fêtes approchent. Voilà, on a besoin de ça, que voulez-vous? Avec dans cette balade champenoise ce matin, Patrick Bruel.
Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat.
Le nouveau titre de Patrick, extrait du CD DVD live de sa dernière tournée ce soir ensemble. Et puis, un duo.
Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre.
Double dose de Patrick après Bruel, Fiori aux côtés de Florent Pagny. RTL vous régale jusqu'à l'heure de l'apéro. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. C'était une évidence de démarrer cette émission avec le champagne de Jacques Higelin. Et puis le défi frigo, et puis nos invités du jour. Je vous souhaite une très belle matinée. C'est RTL vous régale.
Elfe, faune et farfadet, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu tendue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous a marqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. De lubrique vestale et géris insatiables, chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satire, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière d'Orgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le poule sec devant ses yeux maléfiques. Il ne se dressait pas bon dans un concert de jurons, disant le tout pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus a su griefs de leur peine. Ils ont élu
Johnny Champagne, 1980, Jacques Higelin sur RTL. Un champagne lié étroitement à l'histoire d'une veuve plutôt visionnaire. On vous explique tout avec mes camarades d'ici un instant. Merci d'écouter RTL ce matin.
RTL vous régale.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année et un bon week-end sur RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Comme tous les samedis, RTL vous régale, une balade en champagne ce matin. Alors évidemment, quand on évoque la champagne, Jean-Sébastien, Louana, il y a un nom qui apparaît, qui nous saute aux yeux. C'est évidemment celui de Dom Pérignon. L'histoire considère que c'est lui, l'inventeur du champagne. En fait, il y a une autre histoire. C'est celle des fameuses veuves.
Bah, effectivement, oui, elles sont au nombre de trois. La plus connue étant la veuve Cliquot, Barbe Nicole Ponsardin perd son mari alors qu'elle n'a que 27 ans. François Cliquot était négociant en Champagne et sa veuve a eu l'idée visionnaire d'acheter 300 hectares de vignes dans les meilleurs terroirs. Et puis elle a inventé le marketing avant tout le monde en ayant l'idée de millésimer une cuvée. Nous sommes en 1810 et malgré les conflits qui déchirent l'Europe à cette époque, la veuve Cliquot réussit à conquérir les marchés étrangers. Dès 1814, elle abreuve la Russie en champagne. On trouve du champagne Cliquot-Ponsardin à Londres, à New York, et puis de Madrid à Buenos Aires. On peut dire qu'en champagne, on a brisé le plafond de verre avant tout le monde, car ça n'est pas la seule histoire de veuve. On se doit aussi de parler, Louana, de Jeanne-Alexandrine Pommery.
Elle s'est retrouvée à la tête d'une petite maison de champagne au décès de son mari en 1858. Tout en élevant ses deux enfants, elle fit des Pommery une marque incontournable grâce à son énergie inépuisable. 20 ans plus tard, Pommery vend 2 millions de bouteilles. Elle fait aménager 18 km de galeries dans les anciennes crayères des Reims pour faire vieillir ses vins dans les meilleures conditions. Un peu moins connue, Lily Bollinger prend les rênes de la maison au décès de son mari Jacques en 1941. Pendant l'occupation, elle assure la production en faisant face à tous les obstacles. Elle fut ensuite une ambassadrice permanente de la marque Bollinger. Vive les femmes!
Ouais, il en manque une, hein.
Ouais, on peut aussi citer Adèle Jouette, qui fonda la maison Perrier-Jouette avec son époux Pierre-Nicolas Perrier en 1811. Malade, il laisse à Adèle le soin de faire prospérer l'entreprise. Et puis il y a la dynastie des veuves de Vaux, trois veuves qui dirigèrent les champagnes du même nom de 1846 à 1951. Heureusement qu'il y a eu des femmes, hein, en Champagne.
Bah, absolument, oui. Et parce que les histoires en Champagne et sur Champagne, elles ne manquent pas. Il y en a une qui a la particularité d'être souvent racontée dans les dîners quand on sort les bouteilles. C'est la fameuse anecdote des bouteilles de Crystal Roederer. Et cette histoire, elle est assez étonnante d'ailleurs.
Oui. Et c'est au milieu du 19e siècle, la cour impériale des Russies achetait 60% de la production de la maison Louis Roederer. Lorsque Alexandre II passe commande d'une cuvée de prestige. On lui prépare alors un assemblage des 10 meilleurs crus. Le tsar veut aussi une bouteille en cristal, des baccarats et à fond plat. En champagne, les bouteilles sont vertes et ont un cuillot.
Mais c'est quoi cette histoire de caprice de tsar, en fait? J'ai failli.
Ah oui.
C'était surtout pour se protéger des tentatives d'attentat. La bouteille en cristal permettait de vérifier si le champagne avait été empoisonné. Et le fond plat empêchait quiconque de cacher un explosif dans le culot. Ainsi est né le Crystal Roederer. Bon, ça n'empêcha pas l'assassinat d'Alexandre II en 1881. Mais en attendant, le champagne de légende est resté.
Parce qu'à l'époque, on n'était pas à l'abri d'avoir un explosif dans le culot.
Oui.
Une autre cuvée très célèbre en Champagne, c'est la cuvée de Churchill de la fameuse maison Paul Roger.
Absolument, et Churchill était un très grand amateur des champagnes. Il était client du champagne Paul Roger depuis 1908. Et à la fin de la Deuxième Guerre, à l'occasion d'un dîner à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, il invita Odette Paul Roger de ce jour une amitié énorme. États-Unis. Churchill répétait régulièrement à son ami qu'il voulait être invité pour les vendanges afin d'effouler les raisins avec ses mains.
J'aurais voulu voir ça.
Et pour le 10e anniversaire de la mort du Premier ministre anglais, la maison d'Epernay a créé une cuvée Winston Churchill qui existe toujours, qui n'est réalisée que pour des années exceptionnelles et c'est un champagne exceptionnel. C'est cette cuvée de Churchill de Paul Roger.
Jean-Sébastien, est-ce qu'il faut rappeler une fois encore dans RTL vous régale ce matin qu'en matière de vin, il faut savoir qu'en France, le rosé n'est pas un mélange de vin rouge avec du vin blanc. Hein, on le martèlera encore longtemps. En revanche, pour le champagne, c'est assez différent.
Eh oui, ça peut être différent. Pas forcément. La première méthode, comme pour les vins tranquilles, ce sont des raisins noirs à jus blanc, issus de pinot noir ou de pinot meunier, qui sont foulés avec leur peau. Du coup, ça donne une couleur au jus lors de la macération. En revanche, il y a une deuxième méthode qui est autorisée. On vinifie séparément du vin rouge, reconnu par l'AOC Champagne, et du vin blanc. Et à partir de là, on fait un mélange, on les réunit lors d'un assemblage, ce qui ne se fait pas dans les autres vins, avec la mise en bouteille et la prise de bulle, et ça donne ce champagne rosé, la Champagne étant la seule région française à autoriser ce mélange de vin rouge et de vin blanc.
Vous faites bien de parler de la prise de bulle, parce que dans quelques minutes, on évoquera la prise de bec hebdomadaire de cette émission. Vous me voyez venir. Cette semaine encore, jusqu'où pousseront-ils le bouchon de champagne, évidemment, pour réussir leur défi, tenter la victoire. Vous verrez un jour, la coupe sera pleine. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et ils auront 1 minute 30 pour imaginer une recette. Ça s'appelle le défi frigo. C'est devenu un incontournable de vos samedis matins sur RTL, dans RTL vous régale. Rendez-vous donc juste avant les infos de 11h. Vous allez jouer aujourd'hui pour un mini potager d'intérieur, un potager véritable, je vous expliquerai. Et en cadeau bonus aujourd'hui, des chocolats Jeff de Bruges, 1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges pour tous les auditeurs qui seront à l'antenne avec nous aujourd'hui dans RTL vous régale. Pour jouer avec nous, c'est facile. 3210 par téléphone ou alors par SMS en envoyant le mot régale, suivi de votre message au 64 900. Je vous dis bonne chance et on se retrouve pour la suite de cette balade en champagne dans un instant. A tout de suite sur RTL.
RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Très bon week-end sur RTL, RTL vous régale. Se balade avec vous en champagne ce matin. Et les amis, champagne rime avec champêtre. On peut le dire.
Oui, c'est vrai que lorsqu'on se balade en Champagne, on trouve des forêts à l'image de la forêt d'Orient, par exemple. Un parc naturel régional de 10 000 hectares où la nature est absolument exceptionnelle, riche et permettant des balades absolument magiques, passionnantes à la découverte de la faune et de la flore. Il y a des champs de céréales et puis il y a les coteaux de vignes qui font partie des plus beaux paysages que je connaisse. Sur cette terre singulière, les hommes ont donné naissance à un vin unique que le monde entier nous envie, mais aussi à des paysages de Champagne qui racontent cette épopée, qui racontent celle d'une véritable civilisation du Champagne qui s'est installée ici il y a des lustres. Et il en a fallu du temps pour apprivoiser ce qui n'était qu'une liane sauvage qui développait des sarments en s'agrippant aux arbres. Et le génie humain ainsi que la nature ont fait des miracles. Et aujourd'hui, il y a 15 000 vignerons en Champagne qui œuvrent pour que nous puissions célébrer, commémorer, fêter et pour simplement être heureux en fait.
Ça, vous savez quoi, ça me fait un bien fou. C'est simple évocation de ces mots, célébrer, commémorer, fêter, ça me ressource. Et j'ajoute cuisiner aussi, Louana, parce qu'on cuisine avec le champagne.
Oui, et souvent quand je dis qu'on va cuisiner avec du champagne, c'est comme on me regarde comme si je disais une hérésie. Alors qu'en fait, on cuisine depuis des siècles avec le champagne. Tenez un exemple, Madame Zola, la femme du célèbre écrivain, très très bonne cuisinière, avait rapporté de chez vous, cher Jean-Michel Zeka, une recette de Belgique, des bécasses au champagne. Mais aussi des grands chefs ont utilisé le champagne pour la préparation des plats différents, raffinés. La cuisine au champagne est bien une cuisine de lettres et des noblesses. Le champagne est au contraire un très bon vin pour la cuisine. Il communique aux sauces blondes une légèreté et une fraîcheur qui ne feront que sublimer certains plats. Certes, le champagne n'est pas un vin économique, mais il ne s'agit pas d'inonder vos plats. Il faut juste un tout petit peu. Alors, il y en a plein de recettes à faire. Juste quelques-unes. Une mayonnaise, rajoutez un peu de champagne, ça va accompagner vos crustacés. Ou alors, vous faites un poisson, juste vous mettez par-dessus un peu de champagne, du beurre, du fumet de poisson, et vous le passez, vous le faites cuire au four. Il y a aussi la fameuse poularde au champagne. Vous pouvez faire autre volaille que la poularde. Elle s'incorpore comme la pintade, le poulet ou la dinde. Vous allez tout faire ça, mijoter avec dans du champagne, avec des carottes, des oignons, et puis avec du laurier et du thym. Après, vous laissez mijoter, on pointe des crèmes à la fin, des champignons, bien sûr, c'est un régal. Moi, souvent, vous savez, je fais un risotto au champagne avec de la menthe fraîche, et ça sublime, et c'est hyper simple, parmesan, menthe fraîche, et tous mes convives sont très contents.
Quel bonheur, un risotto au champagne. C'est une bonne idée, cette petite pointe de menthe. On retient. Si je vous demande trois coups de cœur, Jean-Sébastien, à découvrir en Champagne, vite fait.
Allez, Reims, parce que c'est le lieu le plus emblématique de notre histoire. L'avenir de la nation s'est dessiné de Clovis au 7 mai 45, lorsque les troupes allemandes signent leur capitulation, en passant par le sacre de Charles VII sous l'étendard de Jeanne d'Arc. Il y a la cathédrale Notre-Dame et la basilique Saint-Rémy. Vous avez Épernay avec son avenue de Champagne. Nous serons tout à l'heure avec Franck Leroy, le maire d'Épernay. Puis j'ai envie de vous emmener découvrir la salle consacrée à Nicolas Appert, au musée des Beaux-Arts de Châlons en Champagne. Il est l'inventeur de la conserve. Invention de 1795 qui consiste à faire bouillir et stériliser les aliments. Je vous apprends rien avant de les enfermer dans un bocal sous vide. Il a offert son brevet à la collectivité par altruisme. Il a également inventé la cocotte minute et le bouillon cube, Nicolas Appert. Et il est mort dans le plus total dénuement. Son corps a fini dans la fosse commune. Comme quoi on peut être un génie généreux et mal finir.
et puis ça met une bonne ambiance. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Allez, qu'est-ce qu'on va rapporter de notre périple en Champagne? On va tout vous expliquer d'ici quelques instants sur RTL. Le fil, nouveau single de Patrick Bruel, extrait de son album live sur RTL.
Dire qu'hier encore, j'ai vu grandir ton petit corps qui veut s'enfuir dès qu'il a tort. Qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles, tu me voyais comme une idole. Mais aujourd'hui, j'avoue, tu m'étonnes, tu me défies, t'en fais des tonnes, tu joues à l'homme. Car moi, je me sens dépassé par les événements dans ma mémoire. T'es qu'un enfant. Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas. Perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Que l'on s'engueule dans cette épreuve, les parents seuls font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Oui, ne t'en fais pas, ton père aussi fait des folies, tu en feras, tu verras. Encore une année, tu seras plus fort que moi, plus élancé. Regarde-toi. Miroir qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ. Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te dis pas. Perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache que je suis tellement, tellement fier de toi. Tellement fier de toi.
Le Fil, le nouveau titre de Patrick Bruel, extrait de son CD Live, l'album de sa dernière tournée, avec les DVD de la tournée et les coulisses des spectacles. Ce soir, ensemble, le tour 2019-2020, un album qui vient de sortir avec RTL. On se retrouve dans quelques instants. RTL vous régale, est en Champagne ce matin. Très bon week-end avec nous sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Alors nous allons tout vous dire sur ce que nous allons rapporter de notre périple en Champagne, les produits incontournables évidemment de cette balade. Je ne vous cache pas qu'évidemment je trimballe Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange, qu'évidemment le coffre est déjà rempli de bouteilles.
Voilà,
ça ne surprendra personne.
Bah, quand on va en Champagne, reste, c'est un peu normal. Hein.
Voilà, s'il nous reste une petite place sur la plage arrière, on y met quoi?
Bon, on va prendre une petite andouillette.
Oh, quelle bonne idée.
Petite andouillette de Troyes. Vous savez qu'on raconte quelle est la cause de la défaite de l'armée royale venue conquérir la ville de Troyes en 1560. Il paraîtrait que les soldats ont passé plus de temps chez les tripiers de la ville qu'à faire la guerre. L'andouillette de Troyes, qui est une andouillette dite pure, car uniquement constituée de cochons. La notoriété de cette andouillette se développe à partir du milieu du 19e. À l'époque, il y avait des éléments du veau et d'autres matières premières qui sont aujourd'hui totalement prohibés, hein, dans cette andouillette de Troyes. Alors, les chaudins, le gros intestin du porc, ainsi que l'estomac, sont découpés en lanières. Et puis, pour que tout cela soit commercialisé comme véritable andouillette de Troyes, le code exige, au-delà de sa composition et du savoir-faire, qu'elle provienne de la ville de Troyes, du département de l'Aube et des cantons limitrophes. On peut aussi rapporter de l'ahure de porc aux pistaches.
On est bien.
Ça, c'est bon, ça, l'ahure.
On est bien.
Charcuterie typique de l'ancienne capitale de la Champagne.
Ouais, j'ai l'impression qu'il va encore falloir des sapins magiques.
Il y a chocolat chez Pascal Café également.
Évidemment. Et je sais la passion de Louana pour la moutarde.
Oui, mais surtout, on vient de parler des charcuteries. Donc, équipe dit charcuterie, dit moutarde. Et évidemment, la moutarde d'Hérin, il faut savoir qu'au 19e siècle, la culture de la moutarde était très répandue en Champagne, au point de rivaliser complètement avec la moutarde des Dijon. Après, elle a un peu perdu, il faut dire, en notoriété. C'est tout moutarde rustique avec une autre teneur en graines des moutardes. Son goût, il est très puissant, un peu piquant. Et ce piquant est donné par le vinaigre des Reims auquel on rajoute des épices. Elle est parfaite en accompagnement. Moi, j'ai une petite recette avec des filets mignons de porc, du miel, de la moutarde, des graines, des fenouilles. Je cuis tout ça dans une cocotte, un peu de bouillon et un fond de lait.
C'est bien ça. Je rappelle que la graine de moutarde dont vous parlez est apportée par les cigognes. Jean-Sébastien, un mot sur ce pâté. Il y a des pâtés partout en France, de Chartres à la Champagne. Le pâté champenois est un bel exemple.
C'est un pâté croûte, mais qui est fait avec une pâte briochée dans laquelle on trouve une farce à boudin blanc faite de viande blanche de porc, de jambon, de poitrine. Tout cela est lié avec des œufs et du lait. Et puis on y ajoute une petite eau de vie de fruits, hein, pour faire la blague. C'est ultra typique, c'est très bon. Et ça s'appelle le pâté champenois.
Une petite gourmandise un peu girly, Louana.
Mais oui, c'est pour moi ça. C'est le petit biscuit rose des Reims. Alors, sa création ne date pas d'hier. Hein. Il remonte à 1690. Alors c'est un biscuit à l'origine, il faut savoir qu'il était blanc. Et puis on y rajoute un colorant naturel. Sa recette est super simple. Il y a des œufs, de la farine, de la maïzena, de la levure, du sucre et de la vanille. Et ce colorant rouge. Alors, la coutume veut qu'on le trempe en général dans du champagne, mais en pâtisserie, il est super pour faire des charlottes. Moi, je le prépare surtout en été je l'utilise pour préparer des tiramisu, par exemple, avec de la fraise. Il y a une dernière biscuiterie sûrement à fabriquer, le biscuit rose, c'est la maison Fossière. Qui existe Fossier depuis 1756. Donc,
allez, le prix pour un paquet de biscuits roses de 200 grammes.
5 euros plus ou moins. Un peu moins de 5 euros.
Très bien. Du fromage. On n'a pas de fromage, les amis. Qu'est-ce qui se passe?
Oh là 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 là. On va aller chercher du chaours alors.
Oh bah tiens.
Un petit chaours, ça c'est bien. Elle n'a pas osé dire en fait, Louana, que le colorant rose.
Non, je ne vais pas le dire parce que j'ai fait une recherche et je sais d'où ça vient.
C'est des cochenilles en fait.
Voilà. Ouais, non, parce qu'après on mange plus. Oui, mais c'est horrible. Quand on regarde la photo, c'est horrible.
Oui, mais c'est bon. Le chat-ours. On raconte, vous savez, que Marguerite de Bourgogne en avait fait son fromage préféré. La cité de chat-ours, qui était à une trentaine de kilomètres de Troyes. On est déjà en Bourgogne, je vous le concède, mais on trouve du chat-ours dans le département de l'Aube. Chat-ours, qui est un fromage à pâte molle, qui est très crémeux, qui est très suave. Moi, j'adore ce fromage, comme les Japonais, comme les Américains, qui en sont très friands. C'est légèrement salé, c'est affiné au moins 15 jours en cave humide, et c'est formidable. On peut même carrément pousser le tout avec un petit marc de champagne.
Je vous voyais venir.
Hein qui est une des 30 appellations d'eau de vie française. Marc de champagne obtenu par distillation lente des marcs de raisins fermentés, grappés provenant uniquement des vignobles champenois. Et c'est ensuite affiné en fût de chêne pendant 5 ans.
Il faut bien digérer à un moment. Hein.
Et ça fait partie de ces magnifiques spiritueux de l'archipel français.
Quand il en a marre, ça donne ça. Voilà, c'est vous dire. Jean-Sébastien, Louana, les amis, on revient dans quelques instants. Je vais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Philippe Mille. Les Crayères, c'est un endroit absolument incroyable. On va parler cuisine. On sera en direct en Champagne d'ici un instant sur RTL. Ne bougez pas.
RTL vous régale.
Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
N'attendons pas.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Allez, n'attendons pas, c'est absolument ça. On va filer en Champagne, on va à Reims, où nous attend Philippe Mille. Bonjour Philippe.
Bonjour
chef.
Philippe.
Bonjour chef. Philippe Mille qui a fait ses classes chez Drouan, qui est passé par le Précatelan, le Ritz, le Meurice. Et il y a quoi, il y a 12 ans à peu près, vous avez quitté la folie des palaces parisiens, Philippe, pour devenir le chef de ce lieu mythique, le domaine des Crayères à Reims. En deux ans, vous obtenez 2 étoiles. Je dis pas de bêtises.
Non, c'est très bien.
Et c'est un parcours de vie finalement. Hein. C'est un parcours professionnel et de vie qui vous a rapproché des producteurs. C'est quelque chose dont vous aviez besoin.
Exactement. Moi, je suis originaire de la campagne de la Sarthe, donc rien à voir avec la Champagne. Mais par contre, oui, au contact du potager, du verger, et puis voilà, la cuisine gourmande, généreuse. Et quand je suis revenu en Champagne, j'ai voulu retrouver cette ambiance. Et donc voilà. J'ai parcouru un peu les chemins pour pouvoir trouver justement ces producteurs et ces artisans.
Et j'imagine que cette démarche, cette idée de se rapprocher des producteurs, ça a influencé forcément votre cuisine ?
Ah ben, naturellement, bien sûr. C'est un échange en plus avec les producteurs et les artisans. Donc on s'entraide, on évolue ensemble, ce qui permet de créer mon identité culinaire aussi par rapport à cette région.
Vous avez été élevé à la campagne, à la ferme même, on va le dire franchement. Est-ce que justement le fait d'avoir grandi dans une exploitation agricole a influencé votre cuisine d'aujourd'hui ? J'imagine, on parle souvent de ça avec les chefs, vous savez, avec tous ceux qui aiment la cuisine et qui aiment la table, c'est truffé de souvenirs d'enfance.
Oui, exactement. Moi, mon gros souvenir, c'était la grosse marmite qui était sur la cuisinière qu'on alimentait avec les bûches en bois. Là. Et moi, j'étais sur le petit strapontin à l'époque et je tenais juste la cuillère en bois. Et puis toute la famille mettait les ingrédients justement issus du potager, du verger. Bon, voilà. Et puis on cuisinait, ça embaumait justement ces murs de chaud. Et puis au fur et à mesure, le strapontin est parti. J'ai gardé cette petite cuillère en bois à la main. Et puis voilà, ça m'a vraiment donné l'envie.
Est-ce que vous vous souvenez de la minute M, de la seconde S, où vous vous êtes dit, tiens, ça va peut-être être ma vie, ce sera peut-être mon métier ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment un moment, mais pour moi, ça a toujours été, en fait. C'est depuis ma tendre enfance, je ne vais pas dire depuis que je suis né, mais quasiment, où j'ai vraiment voulu faire que ça. Ce n'est pas d'autre métier que j'ai voulu accéder, c'est vraiment cette passion. Ce n'est même pas un métier pour moi, c'est vraiment un plaisir, une passion.
Ce qui explique que vous mettez aujourd'hui un point d'honneur dans l'éducation des plus jeunes pour qu'ils apprennent que les produits de saison, c'est le plus important.
Oui, l'éducation, ça devrait être obligatoire d'ailleurs à l'école. Aller goûter, déguster des produits, visiter aussi des potagers, voir comment ça pousse, échanger avec des agriculteurs, parce que on en a besoin. Et puis le goût, c'est important, le goût.
Le goût, le métier, la passion du métier et donner l'envie aux jeunes. Vous en rencontrez beaucoup des jeunes aujourd'hui. Elle se porte comment la passion pour la cuisine en France aujourd'hui chez la jeune génération ?
Elle se porte bien, mais il faut juste les motiver, leur transmettre justement cette passion. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, quand j'ai commencé mon apprentissage, j'ai commencé et puis au bout de 15 jours, le patron a convoqué mes parents en disant « votre fils n'est pas fait pour ce métier ».
Ah, un visionnaire.
Le gros choc. Mais du coup, heureusement qu'on, bah voilà, il y a des amis et les parents qui m'ont aidé, qui m'ont dit voilà, t'as vraiment envie de faire ça, bon, on va t'aider, on va t'épauler. Et aujourd'hui, moi, c'est ça, c'est mon travail, notre travail de chef, c'est ça, c'est de transmettre justement cette passion et aider les jeunes à continuer ce métier.
Philippe Mill, on est à quelques jours de Noël. On a un chef 2 étoiles sous la main. Je vais pas me priver, hein. On vous tient un petit conseil pour cuisiner un plat de fête emblématique, un chapon par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec un beau chapon?
Ouais, alors chapon rôti, bien sûr. C'est vrai que c'est des grosses pièces. Et quand on les met au four, bah, ça va cuire 1h30, 2h, voire 2h30 des fois. Ça peut vite être une viande sèche, pas très juteuse. Et moi, j'ai une petite technique. C'est-à-dire que vous la mettez dans une casserole, dans un grand rondeau, dans une marmite, et vous la remplissez d'eau. Le chapon dedans, vous remplissez d'eau, vous mettez 2-3 carottes coupées en tronçons là, de 4-5 cm.
Un peu comme une poule au pot, quoi.
Exactement, pareil, du poireau, des oignons, un peu de navet, du thym, du laurier, du sel, du poivre. Puis là, vous le laissez cuire. Allez, un chapon, on va dire, c'est 30 minutes. À légère ébullition. Légère ébullition. Puis après, vous couvrez et vous retirez du feu. Et ça, vous faites ça le soir, avant d'aller vous coucher. Et puis le lendemain matin, vous récupérez. Et cette volaille, elle a imprégné justement tout le jus, là. Tout s'est mis dans sa chair. Le bouillon a pris du goût. Et puis cette volaille, ben voilà, à 11h, hop, vous l'égouttez. Vous la mettez sur un petit plat à rôtir, un petit peu de gras dessus, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive si vous voulez, et puis au four. Et là, vous allez la cuire beaucoup moins longtemps, et puis la volaille va rester moelleuse, juteuse, très agréable en bouche. Et en plus, ce petit bouillon, le soir, parce que voilà, on sait comment ça se passe, les repas de fête, vous êtes tous autour de la table, et puis ça dure, et puis le soir, vous êtes plus obligatoirement faim. Mais du coup, ce petit bouillon et quelques pâtes, moi j'ai encore souvenir des petites pâtes alphabet, vous allez voir ça aussi.
Mais bien sûr.
Des petits vermicelles à mettre dedans, comme ça, au dernier moment, et puis les carottes, les oignons qui étaient dedans, là. C'est agréable le soir. Voilà.
Oh, quel plaisir. J'adore cette passion et elle est intacte. Et c'est important de l'entretenir, de la nourrir, surtout dans une période comme celle que nous vivons en ce moment et dans laquelle les chefs sont quand même mis en difficulté. J'espère que vous vivez ça bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. C'était un bonheur de vous avoir avec nous. Philippe, les Crayères à Reims. On vous souhaite un très joyeux Noël en tout cas et une meilleure année 2021. À bientôt, Philippe.
Merci à vous et puis bonne dégustation pour Noël.
Merci. C'est gentil. Merci. Et nous, on revient dans un instant. RTL vous régale avec le défi frigo de ce samedi matin. À tout de suite.
RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Attention, balle au centre, c'est l'heure du match. Voici le défi frigo d'RTL vous régale comme tous les samedis matins. On file du côté de Poitiers à Châtellerault où nous attend Ève. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Ève, qui adore cuisiner les desserts. Mais alors les amis, Jean-Sébastien Loana, vous allez être surpris parce qu'elle va vous proposer un truc qu'elle a dans son frigo qui n'a mais alors rien à voir avec la pâtisserie. Explication, Ève.
En effet, non, ce que je vous propose, c'est le sanglier.
Eh ben voilà.
Ah bah c'est difficile de faire un tiramisu.
Un dessert à base de sanglier, c'est compliqué. Cela dit, Loana, le sanglier qui est quand même très cuisiné dans le nord de l'Italie.
Ah oui, j'avoue.
Vous avez peut-être un petit avantage.
Et pendant les fêtes.
Pour Loana, qui sait. Cela dit, Jean-Sébastien va enfin pouvoir révéler toute la dimension du Obélix qui sommeille en lui. Le repas des chefs dans un instant. Le défi frigo, 1 minute 30 et même 4 minutes le temps des infos pour réfléchir à 2 recettes originales. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez RTL, très bonne matinée. Et
4 minutes, le retour d'RTL vous régale avec ce fameux défi frigo, les amis. Et du sanglier.
Ça vous fait rire, Yann?
Ah, pas du tout. Non, le défi frigo avec du sanglier, ça fait pas rire du tout. Hein. Ça fait peur, même.
C'est du sérieux, là. Oh, un homme, une femme, pas de shabadabada, mais un sanglier. C'est ça la poésie d'RTL vous régale. Merci Yann, prochaines infos tout à l'heure, à midi.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite.
Rendez-vous à 11h30 pour continuer de vous régaler avec Muriel Robin, notre invitée pour refaire la télé et rire, il y a de fortes chances.
RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Au même titre que Noël, c'est devenu une tradition du samedi. C'est l'heure du défi frigo d'RTL. Vous régale, ça rassemble, ça divise certains, évidemment. Ça divise surtout Jean-Sébastien et Louana, qui vont donc s'affronter grâce à ce sanglier proposé par Ève.
Ève à Châtellerault près de Poitiers. Ma chère Ève, qu'est-ce que vous auriez fait avec ce sanglier en temps normal?
Ce que j'aurais fait, je pense nature avec une petite sauce, des pommes fous, enfin des petites pommes, des carottes, du vin blanc.
Une espèce de daube?
Oui, mais le sanglier en entier.
Ah, carrément.
En entier.
Non, à la gauloise. Très bien.
Le morceau en entier.
Très bien. Eh bien, nous ligoterons le barde et pendant ce temps-là, ils s'exprimeront pendant 1 minute 30 chacun. On commence avec... Avec qui d'ailleurs voulez-vous commencer, Ève?
Louana.
Allez, on démarre avec Louana Belmondo. Top chrono, 1 minute 30.
Alors, je vous propose, Ève, une tradition toscane de Noël avec le sanglier, parce qu'en Toscane, on mange du sanglier à Noël. Ça s'appelle le sanglier dolce forte. On y va, on va couper la viande du sanglier en morceaux. On va la faire mariner la veille dans du laurier, des clous de girofle, des baies de genièvre, romarin, vin rouge pendant toute une nuit. On va sortir le sanglier de la viande, de la marinade, et on va le faire revenir dans une cocotte avec un peu d'huile d'olive, des oignons, des carottes et des céleris hachés. On va déglacer le tout une fois qu'il a bien cuit, qu'il est devenu bien doré, avec un peu de vin, de la marinade, et on va laisser cuire pendant au moins 3 heures. Dans une petite casserole, on va faire fondre un peu de chocolat noir. On va rajouter des pignons de pain, des raisins secs, des noix concassées, on râpe des noix de muscade et à votre choix, soit du zeste de cédra ou citron ou orange. Une fois que le sanglier est cuit, on rajoute ce mélange sucré. On va, si besoin, rallonger le tout avec le bouillon et vous allez servir ça avec de la polenta. C'est un vrai délice.
Et top chrono, tout cela en moins d'une minute trente, c'est remarquable. Sanglier polenta, plat de Toscane. Ouais. Comment vous appelez ça le...
Il dolce, sanglier dolce forte.
Le dolce forte. Mais face à cette recette de tradition toscane... Obélix, petit de Mange, va nous sortir un menhir de son chapeau. Attention, 1 minute 30, top chrono.
Bah écoutez, je vais vous faire un colombo, en fait, avec ce sanglier, avec de la patate douce. Alors, ce que vous faites, c'est que vous préparez une marinade avec des oignons, de l'ail, un peu de piment, de l'huile d'olive et beaucoup de jus de citron, du sel, du poivre. Vous mettez vos morceaux de sanglier coupés en dés de 3 cm à mariner pendant une douzaine d'heures, on va dire pendant une grosse nuit. Le lendemain, vous saisissez, vous égouttez le sanglier, vous allez saisir la viande dans une cocotte. Avec jus à sec comme ça parce que vous aurez l'huile de la marinade. Vous allez ajouter la poudre de colombo et un peu de farine pour faire un roux et vous allez mélanger tout ça sur feu moyen pendant 5 minutes. Vous couvrez largement la viande d'eau jus à hauteur, vous portez à ébullition, vous écumez régulièrement, vous laissez mijoter comme ça sur feu doux pendant 3 heures en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, vous lavez, vous épluchez des patates douces, vous en faites, vous les faites revenir dorer 3 minutes, vous les faites revenir au beurre comme ça, facile, tout simple, et vous les laissez cuire tranquille. Et puis une fois la viande cuite, vous ajoutez les patates, vous relaissez mijoter 30 minutes et vous allez servir tout cela avec de la coriandre fraîche ciselée. Et vous aurez un sanglier qui va avoir des saveurs d'ailleurs, et c'est plutôt original.
Un colombo de sanglier.
Ouais, puis vous servez ça avec un beau vin rouge charpenté, genre un beau cornasse rouge ou un château neuf du pape, et vous allez voir,
allez, top
ça va faire la blague.
Colombo de sanglier, c'est ma femme qui va être contente. Bon, alors... Il va falloir choisir, évidemment.
Du colombo de sanglier.
Dites-moi, maintenant que j'y pense. Mais... Ève, c'est vous qui menez l'enquête. C'est vous qui allez devoir, évidemment, choisir entre la recette de Louana et de Jean-Sébastien. De recette originale, hein. Franchement, à base de sanglier, c'était pas évident. Le sanglier dolce forte de Toscane ou le colombo de sanglier de Jean-Sébastien, c'est l'heure du
Jean-Michel,
choix.
Oui. Vous savez que, quelle que soit la décision d'Ève, elle aura mon respect éternel.
Oh, mais il va commencer.
Pour le fait d'être la spécialiste de la pavlova, c'est le dessert que j'affectionne le plus.
Moi alors aussi, j'adore. J'ai des desserts de pavlova, vous ne pouvez même pas imaginer.
Vous avez remarqué, Ève, que dans le colombo de sanglier, on n'hésite pas à rajouter des faillots.
On est prêts à tout.
Bon, ils ont terminé leur service après-vente. Maintenant, vous allez pouvoir choisir. Alors, dites-nous.
Mon cœur penche pour Louana.
Merci.
Je viendrai quand même manger de la pavlova.
Il avait pourtant tout fait, il avait enjolivé l'affaire. Et c'est Louana qui l'emporte ce matin. Eve. Expliquez-nous pourquoi, peut-être, Eve.
Pourquoi ? Avec les pignons, la polenta, on adore la polenta, donc... puis toute la sauce...
Voilà, c'est vraiment une très bonne recette sous Noël à faire, parce que vous avez vraiment les épices, vous avez les fruits secs, vous pouvez même rajouter des fruits confits. J'ai pas gagné, eu le temps, mais je peux quand même parler à Eric Kevin. Oh, et donc vous verrez, c'est vraiment le typique plat à manger à Noël et à découvrir un peu, parce que pas tout le monde le connaît.
On n'en doute pas. Eve, vous avez gagné grâce à ce défi frigo ce matin un mini potager véritable. Un mini potager design que vous placerez dans votre cuisine ou dans votre salon, accompagné de petits lingots qui sont prêts à l'emploi. Vous ferez ça, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si c'est le cas, oui. Vous amuserez avec eux à planter ces petites graines. Et puis, j'y ajoute, parce que ce sont les fêtes de fin d'année, c'est bientôt Noël. Grâce à Jeff de Bruges, nous allons vous offrir 1,5 kg, une boîte d'1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges. En vous souhaitant
merci,
de très bonnes fêtes de fin d'année et un excellent sanglier.
Très bien, merci. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je suis vraiment contente des cadeaux et puis d'être passée à l'émission.
On vous embrasse fort, en tout cas.
Bonne
merci
fête,
d'être avec nous dans RTL
Vous
Régale.
Bonne fête à vous aussi.
Vous aussi, tout pareil. Pour faire comme Eve et lancer un défi frigo à mes camarades, c'est très simple. 3210 par téléphone ou 64 900 par SMS avec le mot Régale. On fait une toute petite pause et dans un instant, RTL Vous Régale revient avec Franck Leroy. C'est l'ambassadeur de sa région. Il est maire d'Épernay. Ce sera dans un instant, juste après Patrick Fiori et Florent Pagny. Allez, on y va.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte. Ta vie tient dans mes veines. S'il fallait traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs aux reflets d'avant. J'y vais, c'est dans chacun de nos pas.
C'est terrible parce que dès qu'on parle de sanglier, forcément, ça attire les passionnés de la Corse. Patrick Fiori sur RTL aux côtés de Florent Pagny, c'était J'y vais.
RTL vous régale.
Vous êtes bien coiffée ce matin,
donc mais... Oui, je suis influenceuse coiffure.
Mais vous sortez du salon de notre invité dans 11h30, Liliane.
I love you, coiffure.
Muriel Robin sera notre invité pour refaire la télé. C'est dans un instant là, à 11h30. A tout de suite.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
On va filer du côté d'Épernay pour notre escale champenoise. Ce matin dans RTL vous régale, on y sera en direct avec Franck Leroy, le maire d'Épernay, dans un instant. Jean-Sébastien, le temps de dire quand même que c'est à Épernay, figurez-vous, qu'on trouve l'avenue la plus chère du monde.
Ben oui, on dit toujours que c'est les Champs-Élysées. En attendant, c'est quand même à Épernay que se trouve cette avenue de Champagne qui est absolument incroyable parce que vous avez pratiquement toutes les plus belles maisons de Champagne qui s'alignent les unes à côté des autres. Et c'est toujours impressionnant de se balader sur cette avenue qui est toute neuve, qui a été intégralement refaite il y a quelques années. C'est sur cette avenue que devait se tenir une manifestation à laquelle je suis assez attaché, parce que Franck Leroy m'a fait l'honneur de m'inviter deux fois. C'est Habit de Lumière. Ça devait avoir lieu la semaine dernière, me semble-t-il. Et puis, cette année, malheureusement, il a été obligé de l'annuler. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour, Jean-Sébastien.
Bonjour Franck Leroy, merci d'être
bonjour
avec nous.
Bonjour à tous.
Vous êtes maire d'Épernay depuis mai 2000, vous êtes le maire de ces Champs-Élysées du Champagne.
C'est joli. Oui, c'est cette chance et cet honneur incroyable. Et Jean-Sébastien est pratiquement un sparnassien, puisqu'on le voit pratiquement tous les ans à cette manifestation avec beaucoup de bonheur.
Citoyen d'honneur, j'imagine.
Avec plaisir.
Le Champagne, Franck Leroy, c'est un formidable baromètre de l'humeur des Français, de l'humeur du monde d'ailleurs même. À 5 jours d'un Noël un petit peu particulier, c'est vrai. Est-ce que le Champagne va bien ?
Écoutez, les ventes de champagne vont moins bien que les autres années parce que quand les grands hôtels dans le monde entier, les grands restaurants, les lieux de fêtes sont fermés, évidemment, on boit moins de champagne. Pour autant, le champagne est excellent. Nous avons derrière nous quelques superbes années et des vendanges absolument magnifiques. Donc, il y a de quoi consommer et être 6 à Noël n'empêche pas, bien au contraire, d'être autour d'une bouteille de champagne. C'est un merveilleux moment de convivialité et d'amitié.
Je parlais de cette fameuse avenue du Champagne, hein, ces Champs-Élysées oui. du Champagne, et ces 100 km de galeries. C'est un festival de nom mondialement connu. C'est un Hall of Fame.
Oui, c'est un endroit assez exceptionnel qui a cette particularité de se jouer à deux niveaux. Vous avez l'avenue de Champagne elle-même, qui s'appelait autrefois le Faubourg de la Folie. C'est un nom que je trouve extrêmement poétique, qui voit effectivement se succéder ces édifices, ces hôtels particuliers, tous plus prestigieux les uns que les autres. Et puis nous avons en dessous une autre galerie qui s'appelle la Galerie de Pékin, qui fait 1,5 km et qui compte environ 110 km de caves. On y faisait des rallyes automobiles autrefois, c'est vous dire la taille de ces caves. Mm-hmm. C'est un endroit unique au monde qu'il faut absolument visiter, évidemment.
Franck Leroy, vous vous êtes investi depuis 10 ans, faut en parler, hein, dans la création de ce lieu unique. C'est le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Un lieu exceptionnel, classé monument historique, le château de Perrier. Je pense que l'ouverture est prévue pendant quelques jours.
Oui, elle a été retardée à cause du deuxième confinement. Il devrait ouvrir le 15 janvier prochain. Tout est prêt. Le château est prêt à accueillir les visiteurs. Et là aussi, c'est un hommage à toute l'histoire de la Champagne, de l'apparition des hommes en Champagne jusqu'à l'apparition de ce vin magique qui fait rêver le monde entier.
C'est un très très joli projet. Vous travaillez là-dessus depuis longtemps, depuis 10 ans, je le disais, et depuis juillet 2015, l'avenue de Champagne est une zone cœur de l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne. C'est sur la liste des biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est ça. Et ça a contribué évidemment à booster l'activité touristique. Le projet du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale est un projet que nous suivons depuis au moins 10 ans, si ce n'est 14. Il a fallu monter un projet scientifique et culturel de très haut niveau avec les exigences du ministère de la Culture. Mais c'est aujourd'hui, en tout cas ce sera dans quelques jours, le musée du vin de Champagne. Il a vocation à révéler quelques-uns des plus grands secrets de la Champagne et du Champagne. Et ce sera évidemment un lieu de rassemblement de pièces uniques, mais également d'outils multimédia, d'outils numériques qui vous permettront d'être au contact des plus grands chefs de cave, des vignerons les plus célèbres. Et c'est un endroit qui vous permettra et qui vous donnera l'envie de découvrir la Champagne.
Franck Leroy, on peut dire que
le 15 janvier, il y aura le musée du vin à Bordeaux, et puis il y aura le musée de la Champagne à Épernay. Ça va être deux lieux phares de l'activité viticole et de la muséographie autour de ce bien commun qu'est le vin en France.
Oui, c'est tout à fait vrai. Alors en plus, ils sont parfaitement complémentaires. Le musée de la cité du vin de Bordeaux est un bâtiment contemporain, alors que nous sommes là dans un château qui renaît, un château du milieu du XIXe siècle absolument exceptionnel, avec un caveau sans doute unique en dessous, qui clôturera cette visite. Donc on a effectivement, pour tous les amateurs de vin du monde entier, deux équipements fabuleux à visiter.
En tout cas, j'ai la prochaine fois que je viens, je vais absolument voir la galerie dans laquelle on faisait des rallyes, là.
Vous pouvez aussi m'inviter, monsieur le maire, hein, je serai bien contente.
Mais Louana, vous êtes notre invitée permanente également, d'autant plus que j'adore le champagne avec du Parmigiano-Reggiano, qui est sans doute le plus bel assemblage.
Je vous ferai un risotto, donc Parmigiano-Reggiano, champagne.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. L'association champagne-parmesan, ouais, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Monsieur le maire, dernière question, elle est un peu délicate. Le 31 décembre, à minuit, pour célébrer cette année nouvelle qu'on attend tous, quel champagne aura les faveurs de votre table ?
Là, je vais me faire des ennemis. Hein. Si je réponds à cette question, c'est une vacherie.
Allez, faites entrer les vachettes.
Bon, ce sera un champagne d'Épernay. Probablement la marque que vous avez citée, qu'adorait tant Winston Churchill.
Ah d'accord, on a compris. On a compris de quelle maison il s'agissait. Franck Leroy, merci beaucoup. On vous souhaite une très très belle année.
Merci à vous.
Merci.
Et vous êtes nos invités quand vous le souhaitez, évidemment.
Ce sera avec grand plaisir. Vive le champagne, vive la Champagne.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Et j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous ce matin dans RTL vous régale, au cœur de cette magnifique Champagne. Dès la semaine prochaine, nous sommes de retour aux alentours de 10h. Samedi prochain, on vous emmène en Savoie, planter du bâton, vin chaud.
C'est bien, après la champagne.
Et voilà, surtout vin chaud. Hein, parce que...
Raclette et luge, puisque pas de remontée mécanique. Oui. Vous avez entendu, raclette et luge, le combo, ça donne racluge. Et on en parlera la semaine prochaine. On vous souhaite un très bon samedi à l'écoute d'RTL, parce que dans un instant, Jade et Eric Dussard, pour On refait la télé, reçoivent une Muriel Robin très très en forme. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, retour du défi frigo, évidemment. Jouer avec nous et lancer un défi à Louana et Jean-Seb. 3210 par téléphone ou 64900 par SMS. Avec le mot régal, on aura un magnifique séjour à vous offrir, une escapade de deux nuits au château de Pizet. Ça vaut le coup. Le casting commence et on vous souhaite bonne chance. Bonne journée à l'écoute d'RTL. Jean-Sébastien, Louana, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Jean-Michel.
Bon week-end à tout le monde.
Je vous embrasse. Demain matin.
Voilà, absolument.
Oui, mais nous, nous serons là demain matin.
Allez,
c'est vrai.
Très bon week-end. Très bon week-end sur RTL.
Bonjour, c'est Cyril Lignac. Je vous donne rendez-vous chaque matin à 8h55 dans la matinale d'Yves Calvi. Chaque jour, je réponds à vos questions pour vous aider à devenir un as des fourneaux.
Toutes les chroniques de Cyril Lignac sont disponibles dès maintenant sur RTL.fr et sur l'application RTL.